comment les phénomènes se produisent-ils et non pas pourquoi les phénomènes existent-ils. Donc la faculté de connaissance adéquate pour répondre à cette question est la faculté de raisonner et la méthode de recherche adéquate est la méthode de recherche par les causes efficientes. Alors la formulation du postulat d'objectivité, comme je vous le disais, 1644, coïncide à peu près avec un autre texte très important pour mon propos, qui est la préface au traité du vide de Pascal, qui est daté, selon les commentateurs, de 1647 ou de 1651. Mais vous voyez, nous sommes vraiment dans les mêmes eaux, hein, au milieu du XVIIe siècle. Et Pascal, donc, qui affirme deux choses extrêmement importantes dans ce texte. Il affirme, d'une part, qu'il faut distinguer les matières qu'on étudie. Donc, si on étudie la science, les deux principes qui doivent fonder le discours scientifique, c'est le raisonnement et l'expérience. En revanche, quand on étudie des matières où on étudie ce que les auteurs ont écrit, donc la théologie, le principe de référence, ce n'est plus le raisonnement et l'expérience, mais c'est l'autorité du texte. Donc d'un côté on a l'autorité pour la théologie et de l'autre on a le raisonnement et l'expérience pour la science. Et il dit que la perversion de certains théologiens, c'est de se mêler de ce qui se dit en science et de ne pas laisser justement la science se développer de manière autonome par rapport à la théologie. Alors on est au milieu du XVIIe siècle, donc 14 ans après la condamnation de Galilée par le tribunal du Saint-Office, et c'est quand même extrêmement courageux de la part de Pascal que d'écrire cela. Et en même temps qu'il écrit cela, il défend aussi un art de persuader dont il est virtuose, en disant que il a démontré l'existence du vide dans l'univers, et les anciens, eux, avaient dit que la nature a horreur du vide, mais les anciens, ils étaient au berceau dans le savoir, et que, en réalité, ceux qu'on appelle les nouveaux, ce sont les anciens dans le savoir, puisqu'ils ont 22 siècles de savoir accumulé, et que donc le fait scientifique, c'est une idée extrêmement nouvelle qu'il introduit là, est de nature historique. Il n'y a pas de découverte d'une loi de la nature qui serait toujours déjà là et que les savants découvriraient enfin et qui serait absolue. Hein, donc il y a cette idée que les lois de la science sont de nature historique. Donc c'est deux éléments importants, mais malgré cela, malgré le postulat d'objectivité fait par Descartes et malgré l'affirmation des droits séparés faite par Pascal, il y a des résistances. Et au XVIIIe siècle, donc plus d'un siècle plus tard, on a encore un certain nombre de savants qui jugent que la science doit se mettre au service de la théologie, et notamment de la théologie naturelle. Et parmi ceux-là, il y a Pierre-Louis Moreau de Maupertuis qui brandit son principe de moindre action qui unifie la mécanique et l'optique comme preuve de l'existence de Dieu. Alors, une nouvelle génération ils sont contemporains, mais d'autres savants s'élèvent contre ce retour de l'argument du dessin. Et parmi ceux-ci, peut-être celui qu'on peut considérer comme le père du matérialisme méthodologique, matérialisme scientifique. Hein, je parle ici de méthodologie, hein, je ne parle pas de doctrine matérialiste. C'est d'Alembert, et je voudrais vous citer l'article « Cause finale » de l'encyclopédie, où il montre en quoi le raisonnement par les causes finales conduit à l'erreur. Et le choix de son exemple est tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit du problème de la détermination d'un minimum en optique. Alors, la recherche de la quantité que la lumière économise dans son trajet, jusque-là, était exploitée justement par les savants à obédience, on va dire, finaliste, en disant que la nature agit selon les voies les plus courtes et que ce n'est pas un hasard, parce que ça veut dire qu'elle a été créée par un Dieu bon économe. Donc, si vous voulez, le principe d'économie qu'il pouvait refaire surgir à travers les lois d'optique leur permettait de dire la nature est bien faite et c'est ontologiquement que ces principes d'économie sont inscrits dans la nature. Donc, il a fallu un économiste très intelligent pour créer une nature aussi bien organisée selon le principe d'économie. Alors, comment D'Alembert fait-il pour débouter l'argument ? Il dit ceci. Il dit que le principe de Leibniz, parce que c'est avec Leibniz que tout cela a commencé, hein, avec Fermat et Leibniz, les méthodes d'optimisation et la recherche d'un maximum et d'un minimum dans la quantité que la lumière économise dans son trajet ou que la nature économise dans le mouvement général. Donc il dit ceci, le principe de Leibniz, selon lequel la nature agit toujours par les voies les plus simples et les plus courtes, conduit à accepter en optique la loi du plus court chemin et du plus court temps, dans le cas de la réflexion, et à ne retenir que la loi du plus court temps, dans le cas de la réfraction. Mais que faire alors du cas des miroirs concaves, cas de réflexion, où souvent ce chemin, au lieu d'être le plus court, est le plus long ? Et il conclut, D'Alembert, il conclut de cette question que l'explication par les causes finales appliquées à la nature créée par Dieu n'est pas fiable. L'article cause finale s'achève sur la nécessité d'exclure le raisonnement par les causes finales de la science, car il est source d'erreur. C'est donc en interprétant le principe de moindre action comme un principe mathématique indépendant du raisonnement par les causes finales que D'Alembert lui attribue toute sa valeur. Et il reprend la même argumentation qu'il synthétise encore dans l'article Cosmologie, puisque Maupertuis avait écrit des essais de cosmologie où justement il revenait sur sa démonstration de l'existence de Dieu à partir des principes et des lois de la nature mises en évidence. Et il dit ceci, je vous cite juste la dernière phrase, « Le principe de monsieur de Maupertuis n'est donc, comme tous les autres, qu'un principe mathématique. » Alors le propos de D'Alembert consiste à considérer ce principe comme un résultat général et simple des lois de la mécanique. Et en même temps, par cette distinction-là qu'il opère, hein, par ce rappel du sens uniquement mathématique du principe de moindre action, il opère un basculement. C'est-à-dire qu'après D'Alembert, on ne pourra plus faire une utilisation métaphysique des principes de minimum en vue d'accorder la science et la théologie naturelle. On passera à une utilisation scientifique des principes d'économie et de simplicité qu'on reconnaîtra appartenir à une partie extrêmement théorique de la science que j'appelle, mais parfois ça suscite des débats, la partie métaphysique de la science, puisque la science ne peut pas se passer de métaphysique, elle peut se passer de la métaphysique qui relève même d'une théologie. Mais il y a du métaphysique dans la science. Et ce que j'appelle ici du métaphysique, eh bien ce sont essentiellement les principes dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, principe d'économie des causes, principe de simplicité, principe d'uniformité du cours de la nature, principe de causalité, principe de non-contradiction, etc. etc. Ces principes-là, on les postule quand on fait de la science, bien qu'on sache qu'ils soient indémontrables. Hein. Donc voilà ce que j'appelle du métaphysique. Alors D'Alembert a parfaitement conscience que la science ne peut pas se passer du métaphysique, mais ce qu'il fait, c'est qu'il l'intègre dans le niveau de fonctionnement de la science. C'est-à-dire que quand on fait de la science, on accepte ces postulats et on y va. Mais après, il ne cherche pas une fondation, il ne cherche pas à référer ses principes à un dieu qui fournirait à la science tout ce dont elle a besoin. Ces principes, il les réfère finalement aux tendances principales de l'esprit humain qui cherche donc le rasoir d'Occam à ne pas multiplier les hypothèses. Quand on en a une ou deux qui fonctionnent, ce n'est pas pour rendre compte des phénomènes, il ne faut pas en chercher d'autres. Et puis même, il faut finir par choisir entre l'une et l'autre. À partir de D'Alembert, la science ne peut plus et ne doit plus prétendre se mettre au service de la théologie. L'argument du dessein est définitivement, et un autre auteur auquel je ne peux pas m'empêcher de faire référence ici, c'est Hume, les dialogues sur la religion naturelle, où de manière magistrale, Hume montre que l'argument du dessein est un sophisme, c'est c'est finalement un raisonnement qui consiste à juger du tout à partir d'une partie. L'homme, l'humain, considère que telle partie de l'univers s'explique par une fin, et dit toute la nature est finalisée, et donc on peut conclure que Dieu a créé la nature. Donc toute théologie physique finalement repose sur une erreur de raisonnement, hein, qui consiste à prendre un raisonnement finaliste sur une partie de la nature pour une preuve du caractère entièrement finalisé de la nature. Et peut-être que Guillaume en parlera, hein, je ne veux pas trop accaparer, mais j'en suis à ma conclusion, mais au départ c'est profondément animiste, hein. L'être humain fonctionne en projetant des fins sans cesse dans sa vie, et finalement il considère que en étudiant la nature, eh bien, le plus simple, c'est d'expliquer aussi par un raisonnement animiste ou finaliste ce qui se passe autour de nous. Et puis, il faut une certaine maturité de conscience, hein, c'est ce qu'on appelle justement la conscience scientifique, avant de renoncer à ce raisonnement animiste qui nous plaît beaucoup. Hein, si vous vous cognez à une porte d'armoire, une porte de placard, vous claquez encore la porte en disant « tu m'as fait mal, je te fais mal ». On continue à le faire, même adulte. Alors, pourquoi finalement revenir à ce postulat d'objectivité? Et je terminerai là-dessus. C'est parce que la confusion entre croire et savoir atteint son comble dans certaines remarques qu'on peut entendre en classe de SVT, justement, où un élève qui se dit pratiquant dira à sa professeure de sciences de la vie et de la terre qui commence à parler de Darwin, vous madame, vous croyez en Darwin parce que vous êtes athée. Si vous entendez bien la phrase, vous croyez en Darwin parce que vous êtes athée, on est bien dans un régime de confusion totale entre croire et savoir, et surtout on est dans l'argument d'autorité mal pensé, enfin perverti, hein, comme disait Pascal, c'est-à-dire que c'est l'athéisme qui devient l'autorité de l'enseignement sur Darwin. La connaissance et la croyance n'ont plus dans ces discours leurs droits séparés. Tout est bon pour enlever à la théorie darwinienne tout crédit. Et finalement, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que la condamnation et la dévalorisation par les créationnistes de la théorie de l'évolution se font au profit d'une régression intellectuelle, parce que finalement cette dévalorisation n'atteint pas le seul Darwin, mais elle atteint, c'est une régression intellectuelle, et je dirais sociale et politique, qui n'atteint pas donc le seul Darwin, mais qui atteint la science tout entière, et aussi la société dans son ensemble. Car cette nouvelle guerre idéologique est une guerre contre la science, mais aussi contre la liberté de penser. Et je terminerai sur ce point. Quoi de plus efficace pour dominer les gens et les empêcher de penser que de les laisser se repaître d'une idéologie de l'au-delà? Surtout lorsqu'on fait passer cette idéologie pour de la science, afin de lui donner un peu de crédit. Et la manipulation des créationnistes est en réalité celle des intégristes, prétendument religieux, mais réellement politiques, qui, sous couvert de religion, font circuler une idéologie fondée sur la confusion entre croire et savoir, sur le déni de l'esprit critique, sur la valeur refuge de la tradition, sur la domination masculine, où les droits des femmes sont les premiers bafoués, mais où très vite toute liberté d'expression et de pensée est interdite. Et ce qui atteste le fait que dans cette montée en puissance du créationnisme, il s'agit bien d'intégrisme politique et non pas d'un débat théologique ou religieux, c'est l'accord des intégristes islamistes, chrétiens ou juifs pour diffuser cette idéologie dans le monde entier. Merci.